Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
C'est devenu un exercice télévisuel à part entière. Un humoriste filmé à l'orée d'un spectacle fondateur. Allez donc jeter un coup d'œil sur Netflix à Trevor Noah, devenu une star américaine, jouant chez lui pour la première fois noir sur une scène à Johannesburg. Et demain, autre monde, autre culture, regardez Nawal Madani, jeune princesse belge du stand-up à la conquête de son propre pays, l'Algérie. Une femme humoriste sur la scène du grand opéra. Sauf que cette fille est dingue. En quelques mois, elle a aussi lancer une première scène ouverte pour les artistes oranais, organiser des lives et des masterclass, couru un footing pour récolter des fonds, visiter une unité de soins pédiatriques et participer au moins à 12 ateliers de théâtre avec des gamins. Nawal Madani à Alger, elle monte sur scène, la jeunesse descend dans la rue, rencontre.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Vous connaissez Nawal Madani ? Vous connaissez pas ? Pourtant, c'est une Algérienne. Elle a souvent pris un taxi. Elle joue à l'Opéra d'Alger. Elle a rempli 4 dates. Elle va même montrer son film. Eh, hey, excuse-moi, tu connais Nawal Madani ? Nawal Madani. C'est Nawal Madani. Je vends des places pour le spectacle de Nawal Madani. Vous la connaissez pas ? Dommage. Est-ce que tu connais Nawal Madani ? Ah, enfin ! J'ai trouvé le mec qui me connaît ! Klaxon ! Il me connaît !
Spectacle diffusé donc demain soir sur C8, c'est moi la plus belge. 1, 2, 3, Nawal Madani. Ça, c'est le titre du film réalisé, co-réalisé avec Thierry Teston. Très bien tourné. D'ailleurs, la photo est très très belle. Ça va vous donner follement envie de filer à Oran. Bonjour Nawal Madani.
Bonjour.
Pourquoi 1, 2, 3, Nawal Madani?
Parce que c'est le slogan des supporters à la base de foot. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est devenu carrément, je pense, un hymne. En fait, tout le monde crie ça tout le temps. À n'importe quel moment et c'est devenu vraiment l'identité de l'Algérien pur.
Vous avez envie d'y aller?
J'ai qu'une seule envie, c'est de rejoindre les Algériens là et d'échanger avec eux et voilà, d'arrêter d'avoir des coups de fil et savoir comment ça se passe, sentir le peuple et oui, on a besoin d'y aller. Du coup, je termine ma promo et je décolle.
D'accord. Le jour de la diff. Hop.
Allez, salut
dans l'avion. Tous les mardis matin avec nous Xavier Delaporte. Salut Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour.
Et la fenêtre de la porte, alors, elle s'ouvre sur quoi ce matin ?
Sur des phrases comme « j'ai fait 12 conversions » ou « cette semaine, réjouissons-nous, nous avons converti 35 personnes » ou alors « l'année prochaine, l'objectif c'est de convertir encore plus ».
Et ces de phrases, quoi il va nous parler ?
Ces phrases, vous croyez pouvoir les entendre dans une réunion d'évêques, d'imams ou de rabbins ? Eh bien non, pas du tout. Ces phrases, c'est dans les conférences de rédaction des journaux qu'on les entend aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est généraliser le modèle du paywall. Vous l'avez remarqué en allant sur les sites des journaux, pour accéder à la totalité d'un article ou après, par exemple, 5 consultations gratuites, on vous incite à vous abonner pour continuer. Alors après des expériences comme la gratuité totale, financée par la pub, ou alors la fermeture totale, en passant par l'achat d'articles à la pièce, le paywall s'impose.
Alors le paywall, ça veut dire le mur payant.
Le mur payant s'impose comme le modèle économique de cette presse écrite qui est dans une crise grave depuis longtemps, on le sait. Avec une conséquence, ce n'est plus le nombre de lecteurs d'un article qui devient l'étalon de sa réussite, mais le nombre de lecteurs qu'il aura réussi à convertir, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, pour lire cet article, auront décidé de souscrire à un abonnement numérique. Or, je pense qu'il est nécessaire de nous interroger sur ce mot de conversion.
Bien
sûr, il a un sens neutre, ou disons scientifique. Faire une conversion en science, c'est changer d'unité de mesure. C'est un peu ce qui se passe en l'occurrence. Le lecteur, une fois converti, acquiert une valeur qui s'élève au prix de son abonnement, alors qu'auparavant, cette valeur était beaucoup plus flottante. Ok, bon, dans la conversion, il y a cette idée-là. Mais on aurait pu aussi bien dire abonnement. Pourquoi insister sur le processus et ce mot de conversion avec sa forte connotation religieuse ? Parce que si on y réfléchit bien, si la réussite se mesure désormais dans le fait qu'il convertit, le journaliste devient une sorte de missionnaire qu'on envoie sur les routes de l'information afin de convaincre les badauds de le rejoindre. C'est quand même bizarre, parce que j'avoue que jusqu'ici, je n'avais pas envisagé mon métier de cette manière.
Non.
Informer, ok, réfléchir, faire réfléchir, ok, distraire à la limite, mais pourquoi convertir? Et puis convertir à quoi? Qu'un journal ait une ligne éditoriale, une manière de traiter l'information, une histoire, je veux bien, mais c'est quand même pas une communauté religieuse, un journal. Le lecteur converti, il n'adhère pas à un dogme. Il n'est pas arrivé là à la suite d'un cheminement personnel et spirituel. Le lecteur converti, il a juste cliqué 3 fois, entré son numéro de carte bleue, rempli quelques cases parce qu'il voulait lire un article, éventuellement d'autres, mais aussi bien, il se désabonnera dans 1 mois. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les rédactions, on ne donne jamais les chiffres des déconversions. Bon. Bref,
ça conversion... Ça existe le mot de déconversion ?
Pas vraiment, pas mais vraiment, on va pas dire non plus apostasie parce que ce serait un peu compliqué. Bref, conversion, est-ce qu'on n'exagère pas un peu ? À moins qu'il s'agisse d'autre chose. Quand j'entends conversion, je pense à un livre qui a marqué les esprits à la fin des années 2000, La Grande Conversion Numérique de Millet Douéi. Historien du Moyen-Orient et des religions, Millet Douéi examinait le passage au numérique comme le franchissement d'un seuil, ce que dit bien le mot paywall, hein, qui signifie donc mur du payant. Dans ce cas, ça voudrait dire que le lecteur converti n'est pas converti à une religion journalistique, mais à un usage, celui d'accepter de payer pour lire en ligne. Et ça, 30 ans après la naissance du web, c'est quelque chose de considérer qu'il est normal de payer pour lire. C'est peut-être un nouvel âge de la presse. Mais bon, le problème, c'est que pour le moment, ils ne sont pas bien nombreux, nos convertis. J'espère que ça signifie qu'ils ne sont pas les derniers à avoir foi dans la presse écrite.
Voilà, la fenêtre de la porte, c'est tous les mardis matins dans l'Instant M, mais c'est en réécoute, vous savez quoi ? Gratuite sur franceinter.fr.
Pas de wall.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Nawel Madani, elle raconte quoi cette chanson ?
La nostalgie qu'on peut avoir sur cette ville Oran, et puis ceux qui sont partis, qui l'ont abandonnée.
Elle est belle, hein ?
Oui, ça parle. Il y a 2 chansons sur Oran dans le doc. Ça parle aussi des immigrés qui ont quitté cette ville qui les a vus naître. Et ils partent pour un Eldorado qui va souvent leur tourner le dos. Et c'est un peu l'histoire de mes parents. Du coup, je commence le docu avec cette chanson et je la clôture aussi avec une autre chanson d'Ouaran.
3 dates à l'Opéra d'Alger, toutes les places vendues en 72 heures. Il a fallu hurler sur un tas de gens dans la rue, manifestement, pour leur fourguer les billets. Casting en urgence pour recruter des danseurs qui arrivent en masse de tout le pays. Évidemment, ça fait des séquences très drôles et très fortes. Bref, ce triomphe sorti de terre avec une énergie folle raconte un pays qui meurt d'envie de monter sur scène, puisqu'on vient du fin fond de l'Algérie pour vous accompagner et pouvoir se produire en public, comme un pays qui rêve de voir des spectacles et qui ne demande que ça. Et en fait, votre périple, Nawel Madani, en Algérie, il raconte ça, l'envie de tous les gens que vous rencontrez. Votre envie à vous, mais l'envie de tous les gens que vous rencontrez.
Complètement. J'ai réalisé cette envie-là quand... tout bêtement, en fait, on n'a pas de site de réservation en ligne, par exemple. Quand quelqu'un de Annaba ou de Constantine, ça peut être à 5 heures d'Alger ou 7 heures, pour acheter un billet, ils font la route jusqu'à un bar à tabac, parce que c'est là où les billets sont accessibles, et ils repartent chez eux. Et ils attendent le mois du spectacle, enfin la date du spectacle, et ils refont cette route-là. Donc j'avais des gens qui avaient fait 10 heures de route la première fois, juste pour acheter le ticket, et 10 heures de route pour venir me voir, et ils ont dormi sur le parking. Du coup, tu te dis, je vais être à l'auteur peut-être de leur attente. Hein. ça a été très compliqué parce que je me suis dit mais je peux pas juste leur offrir un spectacle
un seul en scène avec le micro.
Un seul en scène avec le micro, c'est pas possible parce que ils sont.
Je ne peux pas être une puriste du stand-up ce jour-là.
Non. Ils attendaient ça. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer? Elle revient, mais cette fois-ci sur scène. J'ai été tellement attendue. On a fait 4 représentations. J'ai doublé le dimanche. J'ai joué à 16h, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. C'était juste incroyable. Je voyais les gens attendre sur le parking à partir de 10h du matin. Je jouais à 21h. Je lui dis, mais ils vont même plus rigoler tellement ils vont être crispés de fatigue, de froid. C'était en,
alors, l'Algérie, vous nous y emmenez, Nawel Madani, et vous nous montrez un pays où, où au fond, les salles sont là. Le public est là,
les salles sont là.
Et pourtant, en fait, voilà, le public ne rencontre pas les salles. Exactement. Vous nous montrez le conservatoire d'Oran, dont les sièges sont pleins de poussière. Voilà. Pourquoi ces infrastructures sont-elles vides? Pourquoi, surtout, tous les artistes que vous rencontrez et que vous nous faites rencontrer vivent-ils leur vie d'artiste en dehors des lieux culturels et des institutions culturelles?
C'est devenu très compliqué, en fait. Il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre les institutions et vraiment les artistes. Ils n'y croient plus trop. Et il faut savoir aussi que même nous, en venant d'ici, on a un peu peur aussi de monter sur scène en Algérie parce qu'on a encore cette image des années noires. Et même moi qui a voulu être accompagnée par d'autres humoristes ici, j'ai eu du mal à vraiment trouver des camarades.
Années noires, les décennies noires, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'ombre qui plane sur tout ce film qui sera diffusé demain soir sur C8. On écoute un auteur-réalisateur beaucoup plus âgé que vous qui vous parle en aîné, Mohamed Ben Salah.
Le chanteur de raï Sebastien avait été tué en septembre 1994. Kader Aloula, directeur du théâtre d'Oran, en mars 1994.
Il a annoncé qu'il avait identifié un groupe de 7 islamistes.
On va pas se laisser faire.
L'Algérie restera digne.
Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je dis bien que jusque maintenant, nous subissons les contre-coups de ce no man's land de 15 ans. Il y a eu un no man's land de 15 ans de vide et de fuite. La plupart des gens ont fui.
C'est intéressant, il utilise deux mots, le vide et la fuite. C'est-à-dire que les envies sont parties.
Exactement. On a quitté, déserté le pays. Certains ont eu peur. Il ne faut pas oublier que la culture était la cible, une des cibles des terroristes, les intellectuels. Il y en a beaucoup qui ont fui, ils ont déserté. Puis il y en a qui n'osent même plus s'exprimer. Enfin, je veux dire, même plus créer, en fait. Et là, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui prend son destin en main. Et en partant comme ça, il y a comme une scène underground qui faut vraiment connaître pour voir qu'elle existe. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, la culture n'est pas morte, elle est juste pas là où on l'attend.
C'est ça. Et vous leur proposez, justement, à tous ces jeunes humoristes, vous leur proposez une scène ouverte, une soirée ouverte. Vous leur proposez de jouer au chapeau. Ça ne s'est jamais fait en Algérie.
Non.
Va falloir expliquer au public ce que c'est que de jouer au chapeau et de faire passer le chapeau. Et ça aussi, ça donne des séquences très drôles. Mais peut-on tout dire sur une scène en Algérie, dans une soirée comme ça? Vous donnez la parole à Reda Seddiki, qui est un jeune humoriste, qui vous raconte... Il a osé une blague sur Macron, et dans la blague sur Macron, il y avait une référence au prophète.
Mais en fait, rien que le fait de dire le mot prophète, je ne sais même pas si les gens ont compris ce qu'il y avait avant ou après, bah c'est parti en sucette dans la salle. Je suis sorti escorté par les flics du théâtre. Ce qui était incroyable ce soir-là, c'est que c'est des jeunes qui m'ont insulté. C'est des jeunes de mon âge. On a étudié le même programme scolaire, on a eu la même enfance, la même éducation, et c'est les vieux qui m'ont défendu. J'avais une dame au premier rang, elle portait un foulard, hijab. Tellement elle était vénère, elle a enlevé son foulard et elle fait « Aïe, dégage, si t'aimes pas le spectacle. Moi, j'aime bien. Écoute, j'ai passé une journée, je suis fatigué, j'en peux plus, les problèmes, les dossiers. Donc, je suis venu pour décompresser, pour passer à autre chose. Donc, ne me gâche pas le moment, s'il te plaît. »
Moi, je le trouve très, très drôle, votre camarade. Et surtout qu'il ajoute « Une femme qui décapote, summum de la vénéritude.
» C'est vrai. Mais en fait,
donc,
c'est
une femme qui décapote, c'est une femme qui enlève le foulard, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Elle a enlevé le voile. Ce qui s'est passé... C'est que souvent, en fait, quand on invite des humoristes de France, on les invite sur des belles scènes, comme lui, enfin voilà, il a été invité, je pense, par l'Institut français, mais c'est gratuit. Du coup, en fait, c'est ouvert à tout le monde et pas forcément aux personnes qui vont comprendre l'écriture. Mm-hmm. Et il y a un moment donné où il n'a pas rencontré son public. Donc, il a eu des gens qui sont passés devant la porte, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, et il a dit « prophète » et ça a crié. C'est le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas de vrai organisateur. Il y a tous des métiers à créer. Il n'y a pas de producteur de spectacle, il n'y a pas d'organisateur. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est quand je suis montée à l'Opéra d'Alger, où on a une surcapacité. Les gens sont rentrés de partout. Il y avait 12 portes et je me suis retrouvée avec des gens à deux sur des sièges et tout. Je me suis dit, mais il y a un réel problème. Ils ont tellement faim que c'est impossible de les laisser dehors. Et même la sécurité dit non, mais là, ça va être la merde. Ils ont tellement faim de spectacle. Et du coup, lui, c'est ce qui lui est arrivé. Je lui dis, écoute, faut pas que tu restes sur cette ouais. situation. Enfin, en tout cas, cette dernière expérience. Viens, on y retourne.
Ouais, faut y retourner. Première femme à monter sur scène, première femme à monter sur scène de la scène de l'humour. C'est pas rien, Nawel Madani, c'est énorme. Vous organisez une masterclass de 3 heures. Questions, réponses libres. On y va. Posez-nous toutes les questions que vous voulez à nous, les artistes. Vous êtes 3 sur scène. Il y a une jeune femme qui vous dit, mais moi, je suis une fille, Nawel Madani. Moi, je suis une fille. J'oserais jamais poster une vidéo de moi sur les réseaux sociaux. Je vais me faire insulter. Je vais me faire harceler. Vous savez ce qui m'a le plus surprise? C'est votre réponse.
Ah bon?
Ouais. Parce que vous lui dites, on s'y fait.
Bah oui.
On s'y fait, on vit avec ça, on s'y fait. Comme si votre génération, vous avez une petite trentaine d'années, comme si votre génération avait totalement intégré ça.
Oui, moi je vis avec. Je suis une des premières humoristes d'origine maghrébine et de confession musulmane. Ça veut dire qu'on me parle tous les jours de ma religion sur les réseaux sociaux. Quand je parle de mes menstruations, quand je parle de ma virginité, on me dit carrément t'as pas honte. Et j'ai envie de leur dire bah non en fait. Ça fait partie de moi. Je suis une femme. Pourquoi ça serait, j'aurais honte de ça? Ça fait partie de moi. Et je leur explique qu'en fait, c'est à nous d'ouvrir les portes. On va ramasser les premiers coups. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait partie de ça. Et y a pas que moi, hein. Mm-hmm. Je parle même les sketchs de Blanche où elle parle de sodomie.
De Blanche Gardin.
Voilà. Elle aussi, elle en a ramassé. Et c'est pas une question de, c'est juste, il faut y aller. Et je leur explique que c'est, faut être courageuse, certes, mais après, ils l'intègrent. Et il faut pas calculer ce qui va se dire sur les réseaux sociaux parce que vous allez trouver un public qui va vous admirer. Et c'est ce qui se passe, en fait, parce que depuis qu'on a fait ces échanges-là, elles se sont lancées et elle me dit oui, au début on m'a insultée et au final j'ai gagné en followers. Je dis mais oui, les femmes attendent aujourd'hui des représentantes locales qui avancent et il faut pas que ça soit gratuit, il faut que ça soit vraiment.
Alors justement, Mohamed Ben Salah qui vous guide justement dans ces repères et ces nuances-là, il vous dit jouer devant des milliers de jeunes, Nawel, c'est très bien, des milliers de gens, pas forcément des jeunes, c'est très bien. Voir ton spectacle à la télévision ici, ça serait carrément autre chose. On est 42 millions d'habitants, je te rappelle. En gros,
ouais, c'est ça.
T'es gentil avec tes salles
de 3000.
Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis là, quand on commence à parler des médias algériens, on parle de l'autocensure et on parle de la censure. Et ils vous racontent que c'est très drôle que dans n'importe quelle maison algérienne, quand quelqu'un entre, on change de chaîne, on met la télé algérienne, comme ça on est sûr qu'il n'y a même pas un baiser et que ça risque pas de choquer. Oui. Donc, vous devez jouer aussi,
pudeur.
Vous. Voilà. Plus que de la pudeur, de la pudibonderie, quoi.
Non, mais c'est du n'importe quoi, parce qu'ils ont envie de ça. Moi, quand je monte sur scène, j'ai pas menti. Et puis, quand je marche dans la rue, vraiment, les gens sont fiers de me rencontrer. C'est pour ça que d'ailleurs, la vieille dame, je lui dis, mais quand je dis des vulgarités, tu le prends comment? Elle me dit, mais je meurs de rire, j'ai fait des you-you. Mais c'est cette façon d'être en famille. Tu vas voir le père qui va avoir honte d'être devant sa fille. S'il est tout seul, il peut rire de tes blagues, mais s'il est devant sa femme, non. Et c'est que ça, en fait.
Et vous avez une amie comédienne qui joue dans une série, dans un feuilleton, un soap que moi je connais pas, voilà, et qui vous dit nous, notre génération d'acteurs, on met tout dans le regard.
Ah ouais, ils se font
mais
pas
alors ils se déchaînent dans le regard. C'est ça.
Oui, mais c'est hyper marrant parce que les choses sont en train d'évoluer, certes, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur le terrain, mais on n'essaye pas. Ça fait partie de la culture. Je suis pas là pour essayer de changer. Là-dessus, voilà, j'ai beaucoup de respect pour voilà. C'est un pays musulman, faut pas l'oublier. Il y a des choses qui ne peuvent pas se changer comme ça du jour au lendemain et je n'ai pas vraiment la prétention de les changer. Mais il y a une demande de la jeunesse. Ils disent, mais attendez, là, vous foutez de notre gueule. Nous, dès qu'on change de chaîne, on voit des trucs de ouf. On est sur Internet, on voit des meufs twerker. Et quand on est à la maison, on regarde une pub Tahiti Douche, vous zappez. Donc, à un moment donné, il y a une schizophrénie totale. Et j'ai vécu ça avec mon père. Je dis, papa, viens, on arrête de se mentir. Viens, on se parle normalement. Mais il a fallu du temps parce que les parents aussi ont besoin de grandir auprès de leurs enfants. Et cette franchise-là, elle commence à se faire tout doucement. Mais il y a des femmes comme Zahra qui fait un travail extraordinaire.
Votre père qui est avec vous dans les rues d'Oran et l'or. Mais alors, vous osez avec votre père des trucs.
Mais je l'ai laissé à...
Il a sabonné. Vous laissez les lapsus au montage.
Voilà, normal. Il m'a dit, mais Nawel, j'ai dit, normal.
normal.
Allez, Nawel Madani, donc spectacle diffusé demain soir sur C8, et puis 1, 2, 3, Nawel Madani, le documentaire dont on vient de vous parler ce matin. Nawel, bon voyage, envoyez-nous des nouvelles d'Algérie.
Non, vous... je vais vous emmener, vous avez dit que vous voulez voir les couchers de soleil.
À Oran,
on embrasse Thierry Teston, parce qu'il fait des super compliments sur son
magnifique
image.
Magnifique. Allez, c'est au tour d'Ali Rebelli.
Je suis ravi. Je l'ai vu en spectacle, en plus, c'est formidable. Mortel. Et on s'intéresse ce matin aux bienfaits du travail manuel. Racontez-nous
les bienfaits. Tout ce que vous pouvez faire avec les
mains. Oui, boulanger, pâtissier, céramiste, oui. Tout ce que vous voulez. Appelez-nous au 01 45 24 7000.